Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Suite et fin cette semaine dans Escale de notre long entretien avec notre invité Romuald Ciora pour parler du livre qu'il a écrit avec Anne-Cécile Robert, Qui veut la mort de l'ONU. Au début de cette seconde et dernière partie, il envisage l'avenir des opérations de maintien de la paix, en particulier celle de l'ONU.
Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont très utiles à certains États membres. Cela permet, à moindre frais, d'avoir une intervention militaire dont les États membres ne sont pas toujours responsables. C'est-à-dire que si c'est un succès, c'est grâce à tel ou tel État membre, jamais à l'ONU. Quand c'est un échec, c'est évidemment la faute de l'ONU. Donc je ne pense pas que les opérations de maintien de la paix vont disparaître à court terme. Par contre, elles pourront, oui, être remplacées lorsque cela conviendra à certains États membres, par des opérations menées par d'autres organisations ou par des coalitions d'États ou par simplement un ou deux États membres, comme on a pu le voir en Libye, comme on a pu le voir à plusieurs reprises. Le problème aujourd'hui des opérations de maintien de la paix, c'est, et vous le savez très bien, c'est que dans l'esprit du grand public, elles sont managées et organisées par les Nations Unies, lorsque dans la réalité, bien qu'elles soient organisées et pilotées par les Nations Unies, elles sont financées uniquement de par le bon vouloir des États. Donc une fois de plus, il y aurait une réforme très importante qui serait à faire au niveau des opérations de maintien de la paix, et je ne pense pas que cela arrivera.
Vous parlez même, vous allez plus loin dans votre livre, vous parlez carrément de l'ingérence des pays hôtes. Il faut un accord pour qu'une opération de maintien de la paix soit déployée. Mais vous dites parfois que ce sont de facto les pays hôtes qui dirigent les opérations.
Oui, bien sûr. On l'a vu à plusieurs occasions. Et une fois de plus, lorsque cette opération de maintien de la paix échoue ou n'a pas un résultat tangible, la faute incombe aux Nations Unies. C'est lorsque l'on dit qui veut la mort de l'ONU, ce comportement de certains États membres contribue à la mort politique des Nations Unies.
Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, et on rappelle le titre du livre, Qui veut la mort de l'ONU, l'ONU a un rôle à jouer, il y a un risque, donc, que vous disiez, de déliquescence et de perte totale ou partielle de son influence politique. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, on a besoin de l'ONU?
Oui, bien évidemment, et sans doute plus que jamais. L'ordre multilatéral, lui, est déjà en déliquescence, mais cela n'est pas une raison pour tous les progressistes à travers la planète de se résigner et de se croiser les bras. Nous devons maintenir un tant soit peu ce qui peut être maintenu de cet ordre multilatéral en espérant que des temps meilleurs arriveront plus ou moins prochainement. Et donc pour cela, nous devons préserver la seule organisation multilatérale un tant soit peu démocratique sur la planète. Donc pour cela, même s'il est quasi impossible de réformer de fond en comble les Nations Unies, nous devons continuer à œuvrer aux réformes qui sont possibles, ou en tout cas à maintenir l'espérance de la possibilité de ces réformes et continuer à confirmer l'ONU dans les domaines où elle est indispensable et où elle œuvre d'une manière remarquable. Humanitaire, certaines opérations de maintien de la paix, droits de l'homme, etc., etc. Donc oui, l'ONU est plus que jamais indispensable puisqu'elle est la dernière représentation multilatérale démocratique sur la planète.
Est-ce que vous êtes de ceux qui disent qu'au moins on a l'ONU, ça a été créé dans la douleur, peut-être parfois avec beaucoup d'inertie, mais ça serait encore plus compliqué de faire table rase de cette organisation et d'en créer une nouvelle?
Ah bien sûr, et il est impossible dans le contexte d'aujourd'hui de créer une nouvelle organisation qui réponde aux besoins qui ont amené à la création des Nations Unies ou de la SDN. N'oublions jamais que toutes les organisations supranationales de cette ampleur ou les systèmes multilatéraux ont été créés après des crises majeures, que ce soit les traités de Westphalie au XVIIe siècle, que cela soit ensuite la Sainte Alliance qui était première grande alliance multilatérale après les guerres napoléoniennes, la SDN après la Première Guerre mondiale et l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Donc seul un choc de cette ampleur pourrait permettre la création d'une troisième génération d'organisations supranationales comme l'ONU ou la SDN. Et il n'y a pas à vue et à courte échéance pour les 10, 20, 30 prochaines années, heureusement, un choc de cette ampleur devant nous. Les chocs qui nous attendent vont plutôt s'étaler sur 2-3 décennies, que ce soit d'ordre climatique, d'ordre économique, etc. Donc cela est moins visible pour nos dirigeants qui pilotent à très court terme ou même pour les populations. Donc il n'y a aucune raison qu'une organisation de troisième génération après la SDN et l'ONU puisse être créée aujourd'hui. Donc oui, l'ONU est tout ce que nous avons. Sans l'ONU, cela serait pire. Donc continuons et tentons malgré tout de réformer et de refonder un tant soit peu les Nations Unies.
Vous mettez l'accent notamment sur le fait que l'ONU est un lieu de rencontre, un forum, et vous vous engagez à consolider, vous essayez de plaider pour une consolidation de ce forum. Comment peut-on consolider un tel forum ?
Une fois de plus, seuls les États membres pourraient véritablement aider à cette consolidation, mais je pense que, premièrement, la société civile peut œuvrer à cela, et elle œuvre à travers la présence des ONG à l'ONU, de différentes organisations, etc. Je pense que les milieux intellectuels, académiques, pourraient et devraient plus œuvrer à développer ce centre de rencontre, ce forum mondial international qu'est l'ONU. Et malheureusement, le monde académique universitaire est assez peu présent aux Nations Unies, au contraire des ONG, je trouve que c'est un petit peu dommage. Les médias, bien évidemment, et aussi le staff des Nations Unies. Aujourd'hui, malheureusement, il y a de moins en moins de personnes qui font carrière aux Nations Unies. Quand j'ai commencé à travailler avec les Nations Unies en 2003, c'était avec Safane de Mistura au Liban, la plupart des gens que je rencontrais étaient des gens qui avaient commencé à travailler aux Nations Unies dans les années 70, 80. Il y a eu toute cette génération qui avait suivi Kofi Annan, qui évidemment venait des rangs. Je pense à Sacha Chitaror, Elisabeth Lindemeyer, Kofi Annan lui-même, etc. Vous, enfin, toutes ces personnes. Aujourd'hui, nous avons un staff onusien composé de personnes de grande qualité, certaines de moindre qualité, mais qui, pour des raisons diverses, passent un petit peu aux Nations Unies comme des touristes. Et cela n'aide pas à développer le forum qu'est les Nations Unies et qu'elles pourraient être si on s'y mettait tous un petit peu.
Est-ce que ça veut dire que ça doit passer par une politique des ressources humaines différente, oui, qui vise à la fois le qualitatif et également qui essaie de réduire les ressources? Donc est-ce qu'il faut couper carrément dans les effectifs?
Je pense qu'il y aurait une grande réforme à faire dans ce domaine et cela est une réforme possible. Au contraire de la réforme du Conseil de sécurité qui n'arrivera que s'il y a un choc qui permettent ce sursaut, la réforme institutionnelle de l'ONU et du management de l'ONU, à mon sens, est possible, une fois de plus avec l'aide des États, mais je ne pense pas que cela aille à l'encontre du souhait des principaux États membres. Donc je pense que cela est possible, et cela dépend peut-être d'une volonté interne aux Nations Unies. Mais cela me semble capital qu'on en revienne à un nouveau management du personnel de l'ONU. Regardez aujourd'hui, et vous savez ça mieux que moi, sans aucun doute, comme il est difficile pour des personnes travaillant aux Nations Unies que depuis de quelques années de progresser au top du système. Aujourd'hui, les secrétaires généraux adjoints sont la plupart des gens qui viennent passer 2 ans, 3 ans aux Nations Unies, alors qu'avant, c'était des gens, pas toujours du Sérail, mais des gens qui connaissaient le système depuis des années et qui donc apportaient au 38e étage et au secrétaire général en tant que secrétaire généraux adjoint une compétence que l'on retrouve aujourd'hui, mais surtout une expérience qui est aujourd'hui quasiment inexistante.
Alors, dans les propositions, et elles sont nombreuses et importantes, vous citez 6 réformes clés. Donc, on a parlé de certaines, la représentativité, par exemple, du Conseil de sécurité. Vous parlez quand même, et vous en avez rencontré 5, de la nécessité de consolider le rôle du secrétaire général, tant dans les 6 organes principaux, quand on prend l'ABC des Nations Unies, comme tout étudiant, où le rôle du secrétaire général est bien établi, dans la charte, il est bien établi.
Oui, bien évidemment, mais le secrétaire général dispose de très peu de pouvoir. Là, l'une des grandes méprise de l'opinion publique quant aux Nations Unies. Lorsque l'on s'adresse à quelqu'un dans la rue et qu'on lui parle de l'ONU, pour lui, le secrétaire général est une sorte de président qui a un véritable pouvoir exécutif, etc. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc je pense qu'il serait capital, si l'on voulait aider l'ONU à se réformer et surtout à se renforcer, de consolider la position de secrétaire général. Celui-ci devrait avoir un pouvoir décisionnaire plus important, un pouvoir donc exécutif plus large, au niveau des opérations de maintien de la paix, au niveau des agences onusiennes et au niveau des relations avec les États membres. Cela est aujourd'hui une chose indispensable si l'on veut continuer à pouvoir se servir de l'ONU
Ce qui veut dire une réforme de la charte et une volonté des États membres.
Oui, mais je pense que cette réforme est possible. Au contraire, une fois de plus, que de la réforme du Conseil de sécurité, de la réforme des opérations de maintien de la paix, une réforme de la charte afin de consolider le rôle du secrétaire général est quelque chose de possible et qui n'irait pas à l'encontre de la volonté de la plupart des États membres. Je pense que donc si cette réforme est sérieusement posée sur la table et portée par l'actuel secrétaire général de l'ONU, je pense qu'elle pourrait être mise en chantier et voir le jour dans les prochaines années.
Alors, six réformes, je le rappelle, que vous préconisez. Parmi elles, les problèmes entre l'ONU et les institutions financières internationales. Vous parlez aussi de moyens militaires renforcés. On parlait des OMP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire doter l'ONU d'une armée?
Oui, je reviens juste sur le rôle du secrétaire général. Aujourd'hui, si l'on va s'amuser à faire du micro-trottoir ici à New York, à Paris, Genève, où vous voulez, et si l'on demande qui est le secrétaire général de l'ONU, je pense que 3 personnes sur 10 peut-être nous répondront et nous donneront le nom du secrétaire général de l'ONU. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU est aussi peu connu des populations que l'était le secrétaire général de l'OTAN il y a quelques années ou encore aujourd'hui. Si on revient 10 ans en arrière, un peu plus, à l'époque de Kofi Annan, c'est 7 personnes sur 10, probablement, qui auraient pu nous répondre « Oui, le secrétaire général de l'ONU est Kofi Annan » ou, même s'il ne se rappelait pas du nom, est ce diplomate africain. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU est même inconnu de certains académiques d'importance ou decision-makers qui cherchent son nom. Et ça, cela vient du manque de visibilité qui est offerte au rôle du secrétaire général, peut-être à la manière dont cette fonction a été remplie au cours des 10 dernières années. Mais aujourd'hui, alors qu'on a un secrétaire général assez actif et à forte personnalité, seul un renforcement de sa position permettrait de le replacer au centre de la scène internationale et donc permettrait à l'ONU d'être donc plus visible et de communiquer d'une manière plus opportune et plus forte. Pour ce qui est d'une armée de l'ONU, c'est également un vieux rêve. Mais qui n'aurait pas été impossible dans les années 90 ou dans les années 2000. Je pense que même si, effectivement, la création d'une sorte de force de réaction rapide à la disposition de l'ONU fait sens et d'une logique inébranlable, je ne pense pas que cela verra le jour dans la prochaine décennie.
Vous parliez de la visibilité du secrétaire général notamment, ou de l'organisation, la communication, j'en fais partie, donc je me sens complètement concerné par ce que vous dites, y compris pour y rechercher des éléments de responsabilité. La communication n'a jamais autant communiqué. Sur l'ONU, il y a les médias sociaux qui viennent renforcer cet élément aujourd'hui. Il y a l'image qu'on ne connaissait pas autrefois au tout début de l'ONU, c'était la radio. Pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas avec tous les médias sociaux à faire connaître, avec tous les supports dont ont besoin ces médias sociaux, radio, photos, vidéos, etc. Pourquoi on n'arrive pas à faire connaître l'ONU, son travail, ses résultats, ses échecs?
Parce que je crois qu'il y a un très fort désintérêt de l'opinion publique pour tout ce qui touche à ces grandes agences, ces grandes organisations supranationales représentatives pour les populations d'aujourd'hui d'un ordre international un petit peu obsolète. Et cela à tort. Les nouvelles générations ne s'intéressent absolument en rien au système multilatéral, à l'ONU, à l'UNESCO, etc. Donc je ne crois pas qu'il faille, même si je peut être parfois critique quant à la communication même de l'Organisation des Nations Unies, je ne crois pas qu'il faille remettre cela sur le dos des fonctionnaires du département de l'information. Il y a un travail extraordinaire qui est mené par l'ONU au niveau de la communication, c'est plutôt au niveau de la demande, qui est très faible, d'information de la part du public, qu'il faut voir les choses.
Voilà, et c'est avec Romuald Sciorra, co-auteur avec Anne-Cécile Robert du livre « Qui veut la mort de l'ONU » que se referme ce magazine Escale. Un magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Carlos Macias. Un programme d'ONU Info à retrouver avec nos journaux quotidiens, nos vidéos et articles sur Internet et sur les médias sociaux. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.